Je salue mes bien-aimés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je salue également ceux qui nous suivent au loin, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Notre thème de partage ce matin s'intitule « Le pardon », mais le pardon fraternel. Et avant de prendre les versets qui vont concerner ce pardon-là, nous allons considérer ce que Dieu a fait pour nous dans un premier temps. Nous parlons souvent du salut, c'est vrai. Nous avons chanté tout à l'heure que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a visités. Et nous devons nous rappeler que ce salut-là implique beaucoup de choses. Le point de départ du salut, mais c'est d'abord le pardon, bien-aimé. C'est le pardon que Dieu nous a accordé. Même s'il y a la sanctification, la justification, la réconciliation, mais le point de départ, c'est le pardon. Et nous nous souvenons que Jésus-Christ lui-même a souvent employé ce mot-là, pardon. Même jusqu'à la croix, au dernier moment, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous voyons bien que, bien-aimé, le pardon est capital et déterminant aux yeux de Dieu. Et c'est le sujet de notre exhortation de ce matin, c'est de nous rappeler cela, bien-aimés, car sans le pardon, nous ne pouvons pas nous approcher de notre Dieu. Et pourquoi notre Dieu tient tant à ce pardon? Nous allons lire un premier passage, c'est dans le livre des Éphésiens, chapitre 2. C'est un passage que j'aime particulièrement, que nous connaissons aussi, et nous allons voir. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous lisons. On nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, on nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Voici ce que Dieu notre Père a réalisé pour nous, bien-aimés. Nous venons de lire que nous étions morts par nos offenses. Nous étions des ennemis de notre Dieu. Nous étions comme les païens, comme aujourd'hui ces grands, les Bill Gates et autres. Nous étions comme eux, bien-aimés. Nous agissions contre Dieu. Nous étions des ennemis de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sortis de cette mort et il nous a établis dans les lieux célestes. Quelle grâce, bien-aimés! Mais comment notre Dieu a fait cela? Et pourquoi fait-il tant cela, bien-aimé? C'est parce qu'il tient à nous. Nous connaissons tous ce verset que nous aimons tant, Jean 3,16. On nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il aime tellement le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout à l'heure, c'est une parenthèse, hein, lorsque j'étais à côté, je voyais certains bien-aimés arriver. Et ceux qui arrivaient, qui n'avaient pas pu le temps d'arriver un peu plus tôt, je les voyais arriver, je disais, ah, ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. À chaque fois que je vois une personne passer, je dis, mais Dieu a aimé cette personne, Dieu aime cette personne. Mais c'est une merveille, bien-aimé. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas venus, certains, on peut penser par routine, mais non, il y a l'appel de Dieu sur toi aujourd'hui. Si tu es là, n'oublie pas, ne pense pas que non, c'est par ma force. Non, Dieu a prévu quelque chose pour toi et Dieu t'aime. Dieu connaît ta trajectoire Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es là. Et le Seigneur veut nous faire grâce. L'exhortation, nous allons rappeler un élément très important qui, quelquefois, nous bloque, pollue notre vie spirituelle, nous empêche d'entrer véritablement dans la communion de Dieu. Nous venons de lire que Dieu nous a tant aimés et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais pourquoi cet amour de Dieu? Lisons, bien-aimés, le passage de Genèse. En méditant Genèse chapitre 1, nous allons voir pourquoi Dieu tient tant à l'humain. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Nous lisons. Donc là, le contexte, c'est que Dieu a déjà créé toutes choses. Maintenant, c'est le sixième jour. Et il va créer l'homme. Et n'oublions pas que pour les autres créations, lorsque Dieu crée, c'est par la parole et il bénissait juste par la parole. Mais nous allons voir des éléments, un autre élément qui est différent de ce que Dieu a fait depuis le début jusque-là. Nous lisons, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je relis verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimés, nous voyons ici la répétition. La répétition que le scripteur divin a employée ici pour dire que toi, moi, nous qui sommes là, qui sommes appelés de Dieu, nous sommes particuliers. Nous sommes particuliers. Nous sommes pas, Dieu ne nous a pas créés comme il a créé les bêtes. Hein? Non. À la fin, presque à la fin, avant le repos, le septième jour, juste avant le repos, les autres créations, Dieu a dit, mais tout était bon. C'est ce qu'il a dit des autres. Il a dit, tout était parfait, tout était bon. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, c'est-à-dire de toi, bien entendu d'Adam, mais bien de toi aussi, bien-aimé, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il va nous ressembler. Et il va dominer sur toute la création. Même s'il y a eu la chute de l'homme plus tard, mais nous voyons, nous savons très bien que l'homme, même malgré tout, l'homme continue à dominer sur la création, hein, sur les bêtes. L'homme peut décider d'éradiquer toutes les plantes, toutes les bêtes sauvages, même les plus difficiles, les plus féroces. L'homme peut tout détruire. Et Dieu, c'est comme si c'est des petits dieux que Dieu s'est engagé de créer. Et lisons un autre élément, toujours dans Genèse et chapitre 2, verset 7, il dit ceci. Il apporte une précision sur la création de l'homme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Amen. On dit bien ici que c'est Dieu qui souffla dans les narines un souffle de vie dans l'homme. Contrairement aux autres, j'avais dit tout à l'heure, c'était la parole. Mais là, nous voyons bien que c'est un souffle qui vient de Dieu, qui est entré dans l'homme. Et ça veut dire que nous détenons quelque chose de notre Dieu. Dieu tient à toi, Dieu tient à moi. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qui lui appartient et qui se trouve en toi. Il t'a créé au départ à sa nature, même si après il y a eu la chute. Jésus a dit au sujet de Zachée, Dieu est venu chercher, Jésus est venu. Nous aimons tous cette expression-là. On dit, il est venu chercher, vraiment chercher, hein, et sauver quoi? Ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Dieu est venu jusqu'à toi. Dieu est venu jusqu'à moi et pour nous sauver. Mais nous savons que ce salut-là, Jésus est passé par la croix, et il y a eu le pardon. N'oublions pas cet élément-là. Le point de départ, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là, que moi je suis là, mais c'est parce que nous avons obtenu le pardon de Dieu. Et quelquefois nous oublions cela. Le titre de notre exhortation, j'avais dit tout à l'heure, c'est le pardon fraternel. Mais il faut savoir que dans la Bible, il y a plusieurs types de pardon. Hein. Le premier pardon, c'est le pardon éternel dont nous avons bénéficié, les chrétiens ont bénéficié tous. Et ce pardon-là est irrévocable, ce qui nous permet d'aller au ciel. Ça, c'est certain, il est irrévocable. Mais après, il y a le pardon fraternel qui concerne en fait le gouvernement, la vie du chrétien de tous les jours. Et ce pardon-là, nous devons l'utiliser les uns vis-à-vis des autres, bien-aimés. Parce que si nous ne l'utilisons pas, Dieu nous a dit, un élément de la conclusion, hein, le Seigneur nous demande de pardonner les autres comme lui-même il nous a pardonné. C'est vraiment un élément fondamental, bien-aimés. N'oublions pas cela. Dans notre vie spirituelle, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons tous les jours essayer de regarder autour de nous. Est-ce que j'ai pardonné à celui qui m'a fait du tort comme Dieu m'a pardonné. N'oublions pas, nous avions lu dans Éphésiens 2 que nous étions des enfants de colère. Nous étions méchants. Nous étions adonnés à plein d'autres choses. Nous étions des ennemis de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans Hébreux 10, 17? Il a dit, mais je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Lorsqu'il a fait entrer la nouvelle alliance. Et nous savons que les erreurs du passé, tes péchés, Dieu, lorsque tu t'es repenti sincèrement, tu as demandé pardon à Dieu, la Bible déclare qu'il ne se souvient plus de ça. Il a oublié. Et est-ce que nous faisons la même chose? Parce que c'est le principe de Dieu. Il dit, tu dois pardonner ton frère, tu dois pardonner ta sœur, comme moi, je t'ai pardonné. Mais est-ce que nous faisons la même chose? Nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Et quelquefois, c'est même difficile. Et lisons, bien-aimés, le texte central, c'est dans Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15. Donc là, il s'agit bien de la relation des chrétiens au sein de l'assemblée que nous constituons tous. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, il dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voici le point de départ. N'oublions pas que c'est Jésus qui parle ici. Il dit, si ton frère a péché, pas spécialement contre toi, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit, va le voir entre toi et lui seul. C'est le conseil que le Seigneur nous donne. Mais nous, quelquefois, nous nous trompons. Lorsque soit nous entendons ou bien nous sommes témoins de quelque chose, au lieu d'aller reprendre le frère ou la sœur, dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Ma sœur, qu'est-ce que tu as fait? Nous nous adressons à une tierce personne. Et par la même occasion, nous désobéissons à notre Seigneur. Et pourquoi le Seigneur impose les choses ainsi? Parce que lorsque mon frère a fait un tort ou m'a fait du tort et que je vais le voir, c'est une démarche d'abord d'amour. C'est surtout ça, bien-aimé. Nous savons que notre Dieu, pour venir nous sauver, c'est par son amour qu'il est venu vers nous. Et nous nous souvenons dans Romains 5, nous étions mauvais. Nous étions méchants et il est venu nous visiter alors que nous étions mauvais. Pourquoi ne devrions-nous pas aller visiter nos frères, nos sœurs, lorsque nous estimons, entre guillemets, qu'ils sont mauvais? Le Seigneur nous demande de chercher à gagner nos frères. Voici le conseil que notre Dieu nous donne. Et ne méprisons pas ce conseil-là, bien-aimés. Lorsqu'il y a une erreur quelque part, va à la source. Et quelquefois, lorsque tu vas aller voir la personne, peut-être quelquefois même que c'est faux, ou bien même il y a d'autres éléments qui ont conduit à ça, tu ne peux pas le savoir. Et le but, c'est quoi? C'est de gagner. Jésus a dit, hein, de gagner ton frère. Et nous devons être en paix avec Dieu et avec nos frères. Et la deuxième étape, on nous dit, verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'assemblée, toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Même en lisant ces deux passages-là, on dit « s'il t'écoute ». Donc c'est toi qui amènes quelqu'un. On dit « s'il t'écoute ». S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas, donc nous voyons qu'il y a une personne qui occupe un rôle central dans l'affaire. C'est-à-dire toi qui as conscience, qui as eu vent de la chose, c'est à toi de prendre les choses en main. Et nous voyons bien la détermination de ce bien-aimé-là de régler la chose. Amen. De régler la chose. C'est-à-dire ne pas accepter, dire non, faire l'œuvre de l'ennemi, dire non, ah, ce frère-là, il a menti, on l'a attrapé en train de voler, tout ça, de faire. Non. Je vais voir mon frère, je dis, voilà, j'ai appris que tu as volé. Ça, ce n'est pas bien. Est-ce que tu peux te repentir? Voilà, essayer de gagner. L'objectif, c'est de gagner ton frère. S'il n'a pas changé, il dit, tu prends quelqu'un avec toi, tu insistes au point de faire en sorte que mon frère se relève. L'objectif, c'est que ton frère et ta sœur se relèvent. Est-ce que nous voyons les choses comme ça? Tout à l'heure, nous avons chanté que nous sommes une assemblée. Nous sommes des frères et sœurs. Nous constituons une famille. Et c'est vrai, bien-aimés, nous chantons bien, c'est vrai. Nous sommes appelés à vivre l'éternité ensemble, c'est vrai, bien-aimés. Mais est-ce que nous ne devons pas ainsi nous battre les uns pour les autres? Faire en sorte que celui qui s'est trompé se relève, qu'il rétablit sa communion avec Dieu. Et on nous dit à la fin que s'il refuse d'écouter l'Église, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle les sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mais le commentaire qu'on peut faire par rapport à Matthieu 18, 19, où on dit si deux d'entre vous s'accordent. Moi, nous pouvons faire le lien avec le départ, avec celui qui refuse. Ce n'est pas parce qu'il a refusé. Même Jésus nous dit, hein, il doit être considéré comme un païen, un publicain. Mais à la fin, Jésus donne ce conseil-là. Et nous allons voir plus tard, en effet, Jésus n'a pas rejeté cette personne-là en question. Il est question de nous, toi qui es encore là, l'assemblée, c'est de porter cette personne-là par la prière. Ce n'est pas peut-être qu'il a été pris dans les pièges de l'ennemi, tu ne le sais pas. Nous ne devons pas baisser les bras pour nos frères, nos sœurs. Insister dans la prière. Et jusqu'à ce que Dieu lui-même nous demande de ne plus prier pour cette personne-là. Si nous le demandons, on arrête. Mais s'il ne nous a pas demandé, nous devons persévérer, démontrer notre amour. Jésus, depuis le départ, notre Dieu le Père, depuis le départ, est-ce qu'il a lâché l'homme? Lorsque l'homme a péché contre lui, il ne l'a pas lâché. Nous n'oublions pas, hein, dans le jardin, hein, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont fui, c'est Dieu qui allait vers eux. Ce n'est pas eux, ils se sont cachés. Nous savons que le poids du péché est difficile. Mais si Dieu ne vient pas, l'homme est perdu. Et c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. Et maintenant que Jésus est parti au ciel, nous devons remplir cette mission, bien-aimés. N'oublions pas. C'est à nous de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. C'est à nous de chercher et sauver. Ayons le cœur de Dieu. Nous avions lu tout à l'heure. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire qu'avec les attributs de Dieu, avec la miséricorde, avec l'amour, avec la patience aussi, tous les attributs de Dieu, dont la liste est longue, nous devons développer cela dans des circonstances concrètes que Dieu va placer devant nous. Et nous continuons au verset 20, on nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Mais Seigneur, » Donc vous voyez, c'est en lien avec, depuis le début, hein, verset 15, on nous dit « Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume... Donc immédiatement, ici, bon, nous savons, hein, il ne s'agit pas de compter, hein, de faire le calcul, non. Il s'agit de pardonner à l'infini, c'est-à-dire sans arrêt. Et immédiatement au verset 29, Jésus reprend, il dit, verset 23, il dit, mais c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est la conséquence de ce qui vient d'être dit. Il dit, mais c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. 10 000 talents, c'est... on dit un talent, c'est dans les unités de mesure, c'est à peu près le... Non, c'est un denier, qui est le... En fait, à peu près le salaire moyen journalier. Mais 10 000 talents, c'est énorme, bien-aimé. Je me suis amusé à prendre une calculatrice pour calculer un peu. Ça fait l'équivalent de 150 000 années de travail journalier. Et il dit 10 000 talents, c'est-à-dire ce qui paraît impossible. Verset 25. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Cette situation, c'est la situation de chacun d'entre nous, bien-aimés. Nous n'avons pas acheté notre salut, nous le savons. Nous n'avons rien à nous. La Bible déclare que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé dans Ésaïe, et comme un vêtement souillé. Ce n'est pas ce qui vient de nous qui peut nous permettre d'accéder, de payer notre dette. Nous ne pouvons pas. Et puis même le montant prouve bien que l'homme ne peut pas payer cela. Il ne pouvait pas. Ça paraît vraiment démesuré. Et quelle est sa réaction? Sa réaction a été bonne. Il va s'humilier devant ce roi-là. Mais nous voyons bien ici, c'est de Dieu dont il est question. Et verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Comme nous aujourd'hui, nous avons obtenu miséricorde. Dieu nous a remis notre dette. Il a enlevé notre passé. Il a effacé notre passé. Tout le mal que nous lui avons fait, il a effacé cela. Nous ne pouvions pas payer notre dette. Il a fait ça. Mais nous voyons maintenant la suite. Nous, les lecteurs connaissent bien la suite. On nous dit, verset 28, « Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. » Juste 100. On voyait bien 10 000, hein, mais ici, juste 100. 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disant, donc la même réaction que lui, il a eue tout à l'heure, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulait pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. On va s'arrêter là. Voici le comportement que nous pouvons avoir. C'est vrai, ce passage-là nous concerne nous aussi. Dieu a enlevé l'immense dette qui était sur nous. Il nous a créés à son image. Nous devrions agir comme lui. Nous devions avoir son cœur. Mais le péché est arrivé. Nous étions morts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Il a envoyé son fils pour régler ce problème-là. Et maintenant, nous sommes ses enfants. Nous sommes devant lui maintenant. Et que devrons-nous faire, bien-aimés? Est-ce que nous ne devons pas agir de la même sorte que Dieu l'a fait envers nous? Quelqu'un t'insulte. Est-ce que tu ne devrais pas pardonner tout de suite? Ou quelqu'un te doit de l'argent, ne devrais-tu pas oublier? Quelqu'un t'a fait un tort, est-ce que tu ne devrais pas pardonner? On voit bien ici, hein, c'est des petites choses. Il a dit 100 deniers. L'insulte ou bien l'hypocrisie, tout ça, c'est des petites choses par rapport à ce que nous devons à Dieu, bien-aimé. Est-ce que nous ne devons pas pardonner à mon frère? Tu ne dois pas pardonner à ton frère ou à ta sœur qui t'a fait peut-être un geste qui t'a blessé par sa parole. Voici l'attente de notre Dieu. Il attend que tu réagisses de la bonne manière. Et le verset 35, pour finir, nous lisons, il dit ceci, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Voici la loi, c'est la loi divine ça, c'est vraiment la loi divine. Il dit, si tu n'agis pas comme ça vis-à-vis de ton frère, celui qui t'a fait du tort, qui a péché contre toi, si tu ne pardonnes pas, moi aussi je vais te traiter durement. C'est la parole qui le dit. Donc le conseil que je nous donne, bien-aimés, c'est de demander à Dieu de prendre du temps. Peut-être que ça peut être vieux. Tu dois, entre guillemets, tu dois quelque chose à quelqu'un. Peut-être ça fait des années. Demande à Dieu de te donner un cœur disposé à pardonner. C'est un conseil que j'avais donné récemment à un jeune frère. J'ai dit, mais c'est vraiment, il faut faire le tour dans ta vie. Si tu dois, entre guillemets, quelque chose à quelqu'un, commence par là. Parce que si tu ne pardonnes pas, Matthieu 6, 14 nous dit, hein, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est ce qui est écrit. Et je le rappelle, il ne s'agit pas du pardon éternel. Hein. Le pardon éternel est définitif. Mais là, il s'agit du pardon qu'on appelle pardon fraternel et qui a un lien avec le pardon gouvernemental. Comment Dieu agit avec nous tous les jours en attendant l'enlèvement. Demandons à notre frère, pardonnons-lui. Pardonnons-la, pardonnons-nous réciproquement. Et la précision au verset 35, on nous dit comment? Pardonne à ton frère comment? De tout son cœur. De tout son cœur. Et c'est là le défi, bien-aimé. Quelquefois, nous disons, mais bon voilà, il m'a fait ça, je lui pardonne. J'ai oublié, hein, je ne lui tiens plus rigueur. Mais dans les faits, quelquefois, nous réalisons que lorsqu'on voit la personne ou bien il y a une situation, il y a un pincement pardon au cœur. Ça prouve que nous n'avons pas pardonné, totalement pardonné. Et sachant que Dieu peut nous donner la capacité de pardonner de tout notre cœur. Et Dieu veut que nous arrivions à ce stade-là. J'avais souvent donné ce témoignage-là au sujet de il y a quelques années de cela, quelqu'un qui m'avait fait du tort. Et j'avais eu du mal quand même. Et dans mon cœur, je disais que j'avais pardonné, mais à chaque fois, il y avait des choses qui revenaient. Et je me suis rendu compte, en réalité, je n'avais pas pardonné de tout mon cœur. Et je me suis agenouillé devant le Seigneur, bien-aimé. Et j'ai crié à Dieu, sincèrement. Hein. J'ai crié parce que je savais que de moi-même, je ne peux pas y arriver. Parce que je le disais, mais dans mon cœur, ça restait. Et j'ai crié à Dieu. J'ai supplié Dieu. Ce que je vous dis est vrai, bien-aimé. J'ai supplié Dieu. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ce fardeau. Car je veux pardonner comme tu me demandes de le faire. De tout mon cœur, délivre-moi. Et un jour, en insistant de cette façon-là, à la fin de la prière, je reçois, c'est comme si mon cœur reçoit une certaine fraîcheur. Et lorsque je me suis levé, immédiatement, j'ai ressenti de l'amour pour cette personne, bien-aimée. Je vous dis cela, c'est vraiment une réalité. De l'amour pour cette personne. Et le Seigneur a permis que je la croise en plus. Lorsque je l'ai croisée, mais c'est avec sourire et c'est avec joie que je suis allé la saluer, cette personne. Et cela ne vient pas de moi. Et le Seigneur veut faire cela dans nos vies, chacune de nos vies. Et ne méprisons pas cela, car le Seigneur veut nous faire avancer. Nous sommes à son image. Il veut que nous pardonnions comme lui aussi, il nous a pardonné. Le point de départ, c'est ça. Et nous savons que quelquefois, les bénédictions que Dieu veut nous accorder sont conditionnées. Nous allons lire un peu plus tard, hein, sont conditionnées à comment nous traitons les autres. Si nous pardonnons les autres, si nous remettons les dettes, nous laissons tomber, nous acceptons de perdre. Et c'est ainsi que Dieu va nous donner. Lisons, bien-aimés, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 36. Luc 6, verset 36, nous lisons. Voici le conseil de notre Seigneur. Au verset 35, on nous dit d'aimer nos ennemis. Mais au verset 36, on nous dit, soyez donc, c'est la conséquence de tout ce qui vient en haut, soyez donc miséricordieux comme, on dit bien comme, votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire disposé à pardonner. Dit non, ce n'est pas grave, je pardonne. Verset 37, pardon, et dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez, on nous dit, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. C'est la loi de Dieu. On dit Dieu, on va te mesurer, c'est-à-dire le traitement que Dieu va t'infliger, ça dépendra du traitement que tu infliges à ton frère. Si dans ton cœur, lorsque tu vois un frère, tu méprises ton frère, mais quelqu'un va te mépriser un jour. Si tu le tiens pour mauvais, constamment mauvais, mais quelqu'un va te tenir pour mauvais. C'est ça, c'est ce que la Bible nous déclare. Renonçons, bien-aimés, aux considérations que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Les mauvais traitements de nos frères. Tu vas dire, non, mais celui-ci, il ne change pas. Ça fait des années qu'il est là, il écoute. Et à chaque fois, il est tout le temps en colère. Mauvais comportement tout le temps. Mais qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Mais déjà de pardonner, mais aussi d'avoir de l'amour, absoudre, miséricordieux. Et tout cela nous est possible, bien-aimés. Allons à la source. Si nous réalisons que nous n'avons pas cette capacité-là, nous sommes en difficulté, mais crions à Dieu, qui ne demande qu'une chose, c'est de nous visiter et de se glorifier dans nos vies. Parce que lorsque tu cries à lui, tu lui montres tes faiblesses. Tu dis à Dieu que tu es dépassé. Ça, tu ne peux pas. Mais Dieu sera glorifié. Il va venir dans ta vie. Et il va te donner la force. Il va te délivrer. Et nous savons que la délivrance va apporter la paix. Va apporter la paix. Nous avions lu tout à l'heure dans Matthieu 18, on nous dit, si deux d'entre vous s'accordent, nous sommes une assemblée. Mais pour que nous soyons en harmonie, en accord, il ne faudrait pas que le frère qui m'a fait du tort, je garde son tort sur sa tête. Non, je dois lui pardonner que devant Dieu, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de blocage. Mais s'il y a un blocage, s'il y a encore, j'ai quelque chose sur le cœur concernant un frère, une sœur, est-ce que nous pouvons être en accord? C'est certainement non, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu nous appelle à faire usage de miséricorde et de pardon au sein de l'Assemblée, de nous regarder les uns les autres comme Dieu nous regarde, de regarder nos frères, nos sœurs comme Dieu les regarde. Nous vous en supplions, bien-aimés. Ceci est très important, car la faveur que Dieu va t'accorder, ça dépendra de comment tu accordes les faveurs, tu distribues. Nous venons de lire ici, au verset 38, on nous dit « Donnez et il vous sera donné. » On versera. Dieu n'a pas dit qui, Il dit « On versera ». Donc, il peut appeler quelqu'un pour te bénir. Il dit « On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et nous savons que Galates 6:2 dit pratiquement la même chose. On dit, on ne se trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il va le récolter. C'est vrai. Nous prenons souvent ce verset-là pour des péchés, mais aussi, c'est valable pour l'amour que tu donnes. Tu sèmes l'amour, tu sèmes la miséricorde, tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté, bien-aimé. Tu sèmes la libéralité, tu vas récolter. Tu sèmes dans les choses d'en haut et Dieu va te donner. Il a dit ici en son sein, mais il n'a pas dit juste dans sa poche. C'est-à-dire, il est question aussi des bénédictions spirituelles que Dieu veut nous accorder à nous tous. Mais si nous sommes disposés à tendre à avoir le cœur de Dieu, Dieu va nous accorder sa grâce et nous allons vivre toutes ces choses-là. Lisons, bien-aimés, Luc chapitre 7, Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Mais si cet homme était un prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une pécheresse. » Donc on voit bien, celui qui se dit marcher avec Dieu, qui applique la loi, vous voyez le traitement qu'il accorde à cette dame. Il dit « C'est une pécheresse. » Et quelquefois, lorsque nous ne mentons pas, nous ne faisons pas ceci, lorsque nous voyons un autre, on dit « Ah, la réputation de mentir, tout ça », nous avons du mépris, parce que c'est du mépris qu'il a pour cette personne-là. Vraiment du mépris. Mais nous savons que Dieu ne méprise personne. Amen. Dieu ne méprise personne. Et réalisons cela, bien-aimés, ici. Cette femme qui, dans la société, était vraiment considérée comme mauvaise, souillée, tout, qui ne méritait même pas le respect. Elle ne méritait même pas le respect. Mais on voit bien, Jésus se laisse approcher par cette femme. Il se laisse approcher. Le pharisien, lui, il était loin. Et c'est ce cœur-là qui approche Jésus. Et la suite de l'histoire, on nous dit, verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, « Mais Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Parle, répondit-il. » Donc c'est une parenthèse avant de continuer. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Depuis le début, il veut te parler pour que tu saisisses cette occasion-là, pour que tu comprennes, parce que c'est un enseignement que le Seigneur nous donne ici. Nous continuons. Il dit, parle. Ce qui est bien, il est disposé à écouter. Un créancier avait deux débiteurs. Deux. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête. Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. On voit bien ici. Cette histoire, bon, l'aspect qui est révélé ici, c'est l'attachement de l'homme à Dieu. Nous voyons deux situations. Le premier, qui s'est senti en fait moins coupable vis-à-vis de Dieu. Et généralement, lorsqu'on a besoin que d'un petit pardon, on se sent déjà bien. On vient au Seigneur parce que bon, moi c'est juste le mensonge. Mais à part le mensonge, tout le reste, je suis nickel. Généralement, on ne réalise pas l'immensité de la grâce de Dieu. Alors qu'il n'est pas juste question de mensonge, de vol, tout ça. Mais c'est aller plus loin. Parce que l'homme déchu est ennemi de Dieu. C'est-à-dire, si on devait faire la somme de ses péchés à lui, le monsieur, depuis son enfance jusque-là, là au moment où il parle, je crois que c'est des tonnes et des tonnes. Mais il n'a pas réalisé cela. Lui, parce qu'il est fidèle, il va au temple et tout ça, il se dit bien, et il est en mesure de juger les autres. Donc le Seigneur nous a... C'est, il y a aussi une autre parabole dans Luc 18, hein, c'est l'histoire encore d'un pharisien et avec ce pauvre qui a dit à Dieu, sois apaisé envers moi en frappant la poitrine. Et ayant un cœur disposé à relever, par exemple, cette dame qui est ici, à la relever, à ce que sa communion avec Dieu soit établie ou bien soit rétablie. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu a fait de nous des bâtisseurs avec lui. Nous avons lu en introduction que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que notre devoir, nous qui sommes des chrétiens, après avoir été régénérés, c'est de manifester la nature de notre Dieu, de manifester. Le Saint-Esprit est à notre disposition. Et le Seigneur nous demande de nous pardonner réciproquement et d'aller au-delà et de nous aimer vraiment. Est-ce que nous sommes dans cette démarche d'amour bien-aimé? Le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Il veut faire de grandes choses parmi nous, mais aussi il veut faire de grandes choses dans notre vie de façon individuelle. De façon individuelle. Et comme je l'ai dit aussi au début, quelquefois ce qui bloque, c'est le refus de pardonner. Nous avons du mal. Quelquefois nous le disons, mais ce n'est pas réel. Mais posons-nous un instant. Si nous rentrons à la maison, posons-nous un instant, faisons le tour, mettons-nous face à Dieu, seul à seul avec Dieu. Comme dans l'histoire de Matthieu 18, hein, pour régler ce problème de pardon, c'est d'abord seul à seul. Il dit, reprends ton frère, dans 18:15, on dit seul à seul. Donc le problème du pardon, c'est d'abord seul à seul avec Dieu. Lorsque tu es dépassé, crie à Dieu, tu dis, Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation. Et nous savons que l'amertume sur le cœur, ça ne nous aide pas, hein? Ça ne nous aide pas. Nous allons prier, bien-aimés, que le Seigneur nous aide tous. Le pardon est un élément indispensable, ne l'oublions pas. Le pardon, les uns pour les autres. Que Dieu nous aide. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous te prions de visiter nos cœurs, que nous ne soyons pas, que nous ne refusions pas ton instruction que tu nous as donnée de nous pardonner les uns les autres, d'avoir de la considération les uns pour les autres, d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons aussi détruire l'orgueil dans notre cœur, car quelquefois, si nous avons fait du chemin, fait des progrès avec toi, quelquefois nous pouvons mépriser ceux qui sont souvent en difficulté. Pardonne-nous tout cela, Seigneur, et donne-nous de pardonner spontanément, et que la gloire te revienne. Seigneur notre Dieu, je te prie de bénir mes frères, mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, et que ta grâce soit sur nous durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.